Chapitre 17, suite de l'histoire de Kitty Bell, un bienfaiteur. Je disais donc, reprit le plus glacé des docteurs, que Kitty m'avait regardé languissamment. Ce regard douloureux peignait si bien la situation de son âme que je dus me contenter de sa céleste expression pour explication générale et complète de tout ce que je voulais savoir de cette situation mystérieuse que j'avais tant cherché à deviner. La démonstration en fut plus claire encore un moment après, car tandis que je travaillais les nerfs de mon visage pour leur donner, les tirant de long en large, cet air de commisération sentimentale que chacun aima trouver dans son semblable, « Il se croit le semblable de la belle Kitty, » murmura Stello. Tandis que j'apitoyais mon visage, on entendit rouler avec fracas un carrosse lourd et doré qui s'arrêta devant la boutique toute vitrée où Kitty était éternellement enfermée comme un fruit rare dans une serre chaude. Les laquais portaient les torches devant les chevaux et derrière la voiture, nécessaire précaution, car il était 2 heures après-midi à l'horloge de Saint-Paul. « Le Lord Mayor, Lord Mayor !» s'écria tout à coup Kitty en frappant ses mains l'une contre l'autre avec une joie qui fit devenir ses joues enflammées et ses yeux brillants de 1000 douces lumières. Et par un instinct maternel inexplicable, elle courut embrasser ses enfants, elle qui avait une joie d'amante. Les femmes ont des mouvements inspirés, on ne sait d'où. C'était en effet le carrosse du Lord Maire, le très honorable M. Beckford, roi de Londres, élu parmi les 72 corporations des marchands et artisans de la ville, qui ont à leur tête les 12 corps des orfèvres, poissonniers, tanneurs, etc., dont il est le chef suprême. Vous savez que jadis le Lord Maire était si puissant qu'il alarmait les rois et se mettait à la tête de toutes les révolutions, comme Froissart le dit en parlant des Londriens ou vilains de Londres. M. Beckford n'était nullement révolutionnaire en 1870. Il ne faisait nullement trembler le roi. Mais c'était un digne gentleman exerçant sa juridiction avec gravité et politesse, ayant son palais, ses grands dîners, où quelquefois le roi était invité, et où le Lord Maire buvait prodigieusement, sans perdre un instant son admirable sang-froid. Tous les soirs, après le dîner, il se levait de table le premier, vers 8 heures, allait lui-même ouvrir la grande porte de la salle à manger aux femmes qu'il avait reçues, ensuite se rasseyait avec tous les hommes et demeurait à boire jusqu'à minuit. Tous les vins du globe circulaient autour de la table et passaient de main en main, emplissant pour une seconde des verres de toutes les dimensions que M. Beckford vidait le premier avec une égale indifférence. Il parlait des affaires publiques avec le vieux Lord Chatham, le duc de Grafton, le comte de Mansfield, aussi à son aise après la 30e bouteille qu'avant la première, et son esprit, strict, droit, bref, sec et lourd, ne subissait aucune altération dans la société de cette soirée. Il se défendait avec bon sens et modération des satiriques accusations de Junius, ce redoutable inconnu qui eut le courage ou la faiblesse de laisser éternellement anonyme un des livres les plus spirituels et les plus mordants de la langue anglaise, comme fut laissé le second évangile, l'imitation de Jésus-Christ. « Eh, que m'importe à moi les 3 ou 4 syllabes d'un nom ?» soupira Stello. Mais la couronne et la Vénus de Milo sont anonymes, et leurs statuaires ont cru leur nom immortel, en cognant leur bloc avec un petit marteau. Le nom d'Homère, ce nom de demi-dieu, vient d'être rayé du monde par un monsieur grec. Gloire rêve du nombre, a dit Pindare. S'il a existé, car on est sûr de personne à présent. Ah, je suis sûr de M. Beckford, reprit le docteur. Car j'ai vu, dis-je, Saint-Gorfon, ces rouges personnes, en ce jour-là que je n'oublierai jamais. Le brave homme était d'une haute taille, avait le nez gros et rouge, tombant sur un manteau rouge et gros. Il a existé, celui-là, oh, personne n'a existé plus fort que lui. Il avait un ventre paresseux, dédaigneux et gourmand, longuement emmailloté dans une veste de brocart d'or. Des joues orgueilleuses, satisfaites, opulentes, paternelles, pendant largement sur sa cravate. Des jambes solides, monumentales et goûteuses, qui le portaient noblement d'un pas prudent mais ferme et honorable, et une queue poudrée, enfermée dans une grande bourse qui couvrait ses rondes et larges épaules, digne de porter comme un monde la charge de Lord Mayer. Tout cet homme descendit de voiture lentement et péniblement. Tandis qu'il descendait, Kitty Bell me dit, en 8 mots anglais, que M. Chatterton avait été si désespéré que parce que cet homme, son dernier espoir, n'était pas venu malgré sa promesse. Oh, tout cela en 8 mots, dit Stello. La belle langue que la langue turque. Et elle ajouta en 4 mots, et pas un de plus, continua le docteur, qu'elle ne doutait pas que M. Chatterton ne revînt avec le Lord Maire. En effet, tandis que deux laquais tenaient de chaque côté du marchepied une grosse torche résineuse qui ajoutait au charme du brouillard ceux d'une vapeur noire et d'une détestable odeur, et que M. Beckford faisait son entrée dans la boutique, l'ombre de tous les jours, l'ombre pâle aux yeux bruns, se glissa le long des vitres et entra à sa suite. Je vis et contemplai avidement Chatterton. Oui, 18 ans, tout au plus 18. Des cheveux bruns tombant sans poudre sur les oreilles, le profil d'un jeune lacédémonien, un front haut et large, des yeux noirs très grands, fixes, creux et perçants, un manteau relevé sous des lèvres épaisses auxquelles le sourire ne semblait pas avoir été possible. Il s'avança d'un pas régulier, le chapeau sous le bras, et attacha ses yeux de flamme sur la figure de Kitty. Elle cacha sa belle tête dans ses deux mains. Le costume de Chatterton était entièrement noir, de la tête aux pieds. Son habit, serré et boutonné jusqu'à la cravate, lui donnait tout ensemble l'air militaire et ecclésiastique. Il me sembla parfaitement fait et d'une taille élancée. Les deux petits-enfants coururent se pendre à ses mains et à ses jambes, comme accoutumés à sa bonté. Il s'avança en jouant avec leurs cheveux sans les regarder. Il salua gravement M. Beckford qui lui tendit la main et la lui secoua vigoureusement de manière à arracher le bras avec l'omoplate. Ils se toisèrent tous deux avec surprise. Kitty Bell dit à Chatterton du fond de son comptoir et d'une voix toute timide qu'elle n'espérait plus le voir. Il ne répondit pas. Soit qu'il n'eût pas entendu, soit qu'il ne voulût pas entendre. Quelques personnes, femmes et hommes, étaient entrées dans la boutique, mangeaient et causaient indifféremment. Elles se rapprochèrent ensuite et firent cercle, lorsque M. Beckford prit la parole avec l'accent rude des gros hommes rouges et le ton fulminant d'un protecteur. Les voix se turent par degrés. Et, comme vous dit entre poètes, les éléments semblèrent attentifs et même le feu jeta partout des lueurs éclatantes qui sortaient des lampes allumées par Kitty Bell, heureuse jusqu'aux larmes de voir pour la première fois un homme puissant tendre la main à Chatterton. On n'entendait plus que le bruit que faisaient les dents de quelques petites Anglaises fourrées qui sortaient timidement leurs mains de leurs manchons pour prendre sur le comptoir des macarons, des cracknels et des ploum-boum qu'elle croquait. Monsieur Beckford, dis donc à peu près ceci. Je ne suis pas Lord Maire pour rien, mon enfant. C'est bien ce que c'est que les pauvres jeunes gens, mon garçon. Vous êtes venu m'apporter vos verres hier et je vous les rapporte aujourd'hui, mon fils. Les voilà, j'espère que je suis prompt, hein. Et je viens moi-même voir comment vous êtes logé et vous faire une petite proposition qui ne vous déplaira pas. Commencez par me reprendre tout cela. Ici, l'honorable Monsieur Beckford prit des mains d'un laquais plusieurs manuscrits de Chatterton et les lui remit en s'asseyant lourdement et s'étalant avec ampleur. Chatterton prit ses parchemins et mit ses papiers avec gravité et les mit sous son bras, regardant le gros Lord Maire avec ses yeux de feu. « Il n'y a personne, continua le généreux Monsieur Beckford, à qui ne soit arrivé, comme à vous, de verrailler dans sa jeunesse. Cela plaît aux jolies femmes. Et c'est de votre âge, mon beau garçon. Les young ladies aiment cela. N'est-il pas vrai, la belle ?» Et il allongea le bras pour toucher le menton de Kitty Bell par-dessus le comptoir. Kitty se rejeta jusqu'au fond de son fauteuil et regarda Chatterton avec épouvante, comme si elle se fût attendue à une explosion de colère de sa part. Car vous savez ce que l'on a écrit du caractère de ce jeune homme. He was violent and impetuous to a strange degree. Je fais comme vous dans mon printemps, dit fièrement le gros monsieur Beckford. Et jamais le Littleton, Swift et Wilkes n'ont écrit pour les belles dames des vers plus galants et plus badins que les miens. Mais j'avais la raison assez avancée, même à votre âge, pour ne donner aux muses que le temps perdu. Et mon été n'était pas encore venu, que j'étais déjà à toutes aux affaires. Mon automne les a vus mourir dans mes mains, et mon hiver en recueille aujourd'hui les fruits savoureux. Ici, l'élégant Monsieur Beckford ne put s'empêcher de regarder autour de lui pour lire dans les yeux des personnes qui l'entouraient la satisfaction excitée par la faculté de son élocution et la fraîcheur de ses images. Les affaires mûrissant dans l'automne de sa vie parurent faire sur deux ministres, un Quaker noir et un Lord rouge, qui se trouvaient là, une impression aussi profonde que celle que produisent à notre tribune de l'an 1832 les discours des bons petits vieux généraux del signor Bonaparte lorsqu'ils nous demandent, en phrase de collège et d'humanité, nos enfants et nos petits-enfants pour en faire de grands corps d'armée et pour nous montrer comment, parce qu'on s'est occupé durant 17 ans du débit des vins et de la tenue des livres, on saurait bien encore perdre sa petite bataille, comme on faisait en l'absence du grand maître. L'honnête M. Beckford, ayant ainsi séduit les assistants par sa bonhomie mêlée de dignité et de bonne façon, poursuivit sur un ton plus grave. J'ai parlé de vous, mon ami, et je veux vous tirer d'où vous êtes. On ne s'est jamais adressé en vain au Lord Maire depuis un an. Je sais que vous n'avez rien pu faire au monde que vos mots divers, qui sont de l'anglais inintelligible, et qui, en supposant qu'on les comprit, ne sont pas très beaux. Oh, je suis franc, moi, et je vous parle en paix, voyez-vous. Et quand même, ils seraient très beaux, à quoi bon? Je vous le demande, à quoi bon? Chatterton ne bougeait non plus qu'une statue. Le silence des 7 ou 8 assistants était profond et discret. Mais il y avait dans leur regard une approbation marquée de la conclusion du Lord Maire, et ils se disaient, du sourire, « Oui, à quoi bon ?» Le bienfaisant visiteur continua. « Un bon Anglais qui veut être utile à son pays doit prendre une carrière qui le mène dans une ligne honnête et profitable. Mais enfin, répondez-moi, quelle idée vous faites-vous de vos devoirs ? » Et il se renversa de façon doctorale. J'entendis la voix creuse et douce de Chatterton qui fit cette singulière réponse en saccadant ses paroles et s'arrêtant à chaque phrase. L'Angleterre est un vaisseau, notre île en a la forme. La proue tournée au nord, elle est comme à l'ancre au milieu des mers, surveillant le continent. Sans cesse, le tir de ses flancs d'autres vaisseaux faits à son image et qui vont la représenter sur toutes les côtes du monde. Mais c'est à bord du grand navire qu'est notre ouvrage à tous. Le roi, les lords et les communes sont au pavillon, au gouvernail, à la boussole. Nous autres devons tous avoir la main au cordage, monter au mât, tendre les voiles et charger les canons. Nous sommes tous de l'équipage et nul n'est inutile dans la manœuvre de notre glorieux navire. Cela fit sensation. On s'approcha sans trop comprendre et sans savoir si l'on devait se moquer ou applaudir. Situation accoutumée du vulgaire. « Well, very well !» s'écria le gros Bedford. « C'est bien, mon enfant !» C'est noblement représenté notre bienheureuse patrie. Rule Britannia, chanta-t-il en fredonnant l'air national. Eh, bon garçon, je vous prends par vos paroles. Mais que diable peut faire le poète dans la manœuvre? Chatterton resta dans sa première immobilité. C'était celle d'un homme absorbé par un travail intérieur, qui ne sait jamais et qui lui fait voir des ombres sur ses pas. Il leva seulement les yeux au plafond et dit « Le poète cherche aux étoiles quelle route nous montre le doigt du Seigneur. » Oh, je me levai et courus malgré moi à lui serrer la main. Oh, je me sentais du penchant pour cette jeune tête montée, exaltée et en extase comme est toujours la vôtre. Le Bedford eut de l'humeur. « Imagination, dit-il. Imagination, céleste vérité. Pouviez-vous répondre, dit Stello. Bon, je sais mon pauvre comme vous, reprit le docteur, mais j'y songeais hier en ce moment. Imagination, dit M. Bedford. Toujours l'imagination au lieu du bon sens et du jugement. Pour être poète à la façon lyrique et somnambule dont vous l'êtes, il faudrait vivre sous le ciel de Grèce, marcher avec des sandales, une chlamyde et les jambes nues, et faire danser les pierres avec le psaltérium. Mais avec des bottes crottées, un chapeau à trois cornes, un habit et une veste, il ne faut guère espérer se faire suivre dans les rues par le moindre caillou et exercer le plus petit pontificat ou la plus légère direction morale sur ses concitoyens. La poésie est à nos yeux une étude de style assez intéressante à observer et faite quelquefois par des gens d'esprit. Mais qui la prend au sérieux? Quelques sots. Outre cela, j'ai retenu ceci de Ben Jonson, et je vous le donne comme certain savoir. Que la plus belle buse du monde ne peut suffire à nourrir son homme, et qu'il faut avoir ces demoiselles-là pour maîtresse, mais jamais pour femme. Vous avez essayé de tout ce que pouvait vous donner la vôtre. Quittez-la, mon garçon. Croyez-moi, mon petit ami. Et d'un autre côté, nous avons essayé dans des emplois de finance et d'administration où vous ne valez rien. Lisez ceci, acceptez l'offre que je vous fais, et vous vous en trouverez bien avec de bons compagnons autour de vous. Lisez ceci et réfléchissez mûrement, cela en vaut la peine. Ici, remettant un petit billet à ce sauvage enfant, le Lord Maire se leva majestueusement. C'est, dit-il en se retirant au milieu des saluts et des hommages, c'est qu'il s'agit de 100 livres sterling par an. Kitty Bell se leva et salua comme s'il eût été prêt à lui baiser la main à genoux. Toute l'assistance suivit jusqu'à la porte le digne magistrat, qui souriait, se retournait, prêt à sortir avec l'air bénin d'un évêque qui va confirmer des petites filles. Il s'attendait à se voir suivi de Chatterton, mais il n'eut que le temps d'apercevoir le mouvement violent de son protégé. Chatterton avait jeté les yeux sur le billet. Tout à coup, il prit ses manuscrits, les lança dans le feu de charbon de terre qui brûlait dans la cheminée à la hauteur des genoux, comme une grande fournaise, et disparut de la chambre. M. Beckford sourit avec satisfaction et, saluant de la portière de sa voiture, « Oh, loin avec plaisir » cria-t-il, « que je l'ai corrigé, il renonce à sa poésie !» Et ses chevaux partirent. « C'est à la vie, me dis-je, qu'il renonce. » Je me sentis serrer la main avec une force surnaturelle. C'était Kitty Bell qui, les yeux baissés, et n'ayant l'air aux yeux de tous que de passer près de moi, m'entraînait vers une petite porte vitrée au fond de la boutique, porte que Chatterton avait ouverte pour sortir. On parlait bruyamment de la bienfaisance du Lord Maire. On allait, on venait. On ne la vit pas, je la suivis. Chapitre 18. Un escalier. Saint Socrate, priez pour nous, disait Erasme le savant. Oh, je fais souvent de fois cette prière en ma vie, continua le docteur, mais jamais si ardemment, vous n'en pouvez croire, qu'au moment où je me trouvais seul avec cette jeune femme, dont j'entendais à peine le langage, qui ne comprenait pas le mien, et dont la situation n'était pas claire à mes yeux, plus que sa parole à mes oreilles. Elle ferma vite la petite porte par laquelle nous étions arrivés au bas d'un long escalier, et là elle s'arrêta tout au court, comme si les jambes lui eussent manqué au moment de monter. Elle se retint un instant à la rampe, ensuite elle se laissa aller, assise sur les marches, et quittant ma main, qui la voulait retenir, me fit signe de passer seule. « Vite, vite, allez !» me dit-elle en français, à ma grande surprise. Je vis que la crainte de parler mal avait jusqu'alors arrêté cette timide personne. Elle était glacée d'effroi, les veines de son front étaient gonflées, ses yeux étaient ouverts démesurément. Elle frissonnait et essayait en vain de se lever. Ses genoux se choquaient. Oh, c'était une autre femme que sa frayeur me découvrait. Elle tendait sa belle tête en haut pour écouter ce qui arrivait et paraissait sentir une horreur secrète qui l'attachait à la place où elle était tombée. J'en frémis moi-même et la quittai brusquement pour monter. Je savais vraiment où j'allais, mais j'allais, comme une balle qu'on a lancée violemment. « Hélas !» me disais-je en gravissant au hasard les trois escaliers. « Hélas ! Quel sera l'esprit révélateur qui daignera jamais descendre du ciel pour apprendre aux sages à quels signes ils peuvent deviner les vrais sentiments d'une femme quelconque pour l'homme qui la domine secrètement ? Au premier abord, on sent bien quelle est la puissance qui pèse sur son âme. Mais qui devinera jamais jusqu'à quel degré cette femme est possédée? Qui osera interpréter hardiment ses actions et qui pourra, dès le premier coup d'œil, savoir le secours qu'il convient d'apporter à ses douleurs? « Chère Kitty, me disais-je, car en ce moment-là, je me sentais pour elle l'amour qu'elle avait pour Phèdre, sa nourrice, son excellente nourrice dont le sein frémissait des passions dévorantes de la fille qu'elle avait allaitée. « Chère Kitty, pensais-je, que m'avez-vous dit? Il est mon amant. J'aurais pu nouer avec lui une utile et conciliante amitié. J'aurais pu parvenir à sonder les plaies inconnues de son cœur. J'aurais... Mais ne sais-je pas que les sophismes et les arguments sont inutiles, où le regard d'une femme aimée n'a pas réussi. Mais comment l'aime-t-elle? est-elle plus à lui qu'il n'est à elle? N'est-ce pas le contraire? Et où en suis-je? Et même, je pourrais dire, où suis-je? En effet, j'étais au dernier étage de l'escalier, assez négligemment éclairé, je ne savais de quel côté tourner, lorsqu'une porte d'appartement s'ouvrit brusquement. Mon regard plongea dans une petite chambre dont le parquet était entièrement couvert de papiers déchirés en 1000 pièces. J'avoue que la quantité en était telle, les morceaux en étaient si petits, cela supposait la destruction d'un si énorme travail, que j'y attachais longtemps les yeux avant de les reposer sur Chatterton qui m'ouvrait la porte. Lorsque je le regardais, je le pris vite dans mes bras par le milieu du corps, et il était temps, car il allait tomber et se balançait comme un mât coupé par le pied. Il était devant sa porte, je l'appuyai contre cette porte et je le retins ainsi debout, comme on soutiendrait une momie dans sa boîte. Oh, j'ai été épouvanté de cette figure. La douce expression du sommeil était paisiblement étendue sur ses traits. Mais c'était l'expression d'un sommeil de 1000 ans, d'un sommeil sans rêve où le cœur ne bat plus, d'un sommeil imposé par l'excès du mal. Les yeux étaient encore entr'ouverts, mais flottants, au point de ne pouvoir saisir aucun objet pour s'y arrêter. La bouche était béante et la respiration forte, égale et lente, soulevant la poitrine comme dans un cauchemar. Il secoua la tête et sourit un moment comme pour me faire entendre qu'il était inutile de m'occuper de lui. Comme je le soutenais toujours très ferme par les épaules, il poussa du pied une petite fiole qui roula jusqu'au bas de l'escalier, sans doute jusqu'aux dernières marches où Kitty s'était assise, car j'entendis jeter un cri et monter en tremblant. Il la devina. Il me fit signe de l'éloigner et s'endormit debout sur mon épaule comme un homme pris de vin. Je me penchai, sans le quitter, au bord de l'escalier. J'étais saisi d'un effroi qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. J'avais l'air d'un assassin. J'aperçus la jeune femme qui se traînait pour monter les degrés en s'accrochant à la rampe, comme n'ayant gardé de force que dans les mains pour se hisser jusqu'à nous. Heureusement, elle avait encore 2 étages à gravir avant de le rencontrer. Je fis un mouvement pour porter dans la chambre mon dernier fardeau. Chatterton s'éveilla encore à demi. Il fallait que ce jeune homme eût une force prodigieuse, car il avait bu 60 grains d'opium. Il s'éveilla encore à demi et employa, le croiriez-vous, employa le dernier souffle de sa voix à me dire ceci. « Monsieur, you, médecin, achetez-moi mon corps et payez ma dette. » Je lui serrai les 2 mains pour consentir. Alors il n'eut plus qu'un mouvement. Ce fut le dernier. Malgré moi, il s'élança vers l'escalier, s'y jeta sur les 2 genoux, tendit les bras vers Kitty, poussa un long cri et tomba mort, le front en avant. Je lui soulevai la tête. « Oh, il n'y a rien à faire, me dis-je. À l'autre. » J'eus le temps d'arrêter la pauvre Kitty. Mais elle avait vu. Je lui pris le bras et la forçai de s'asseoir sur les marches de l'escalier. Elle obéit et resta accroupie comme une folle, avec les yeux ouverts. Elle tremblait de tout le corps. « Oh, je ne sais, monsieur, si vous avez le secret de faire des phrases dans ces cas-là. Pour moi, qui passe ma vie à contempler ces scènes de deuil, j'y suis muet. » Pendant qu'elle voyait devant elle fixement et sans pleurer, je retournais dans mes mains la fiole qu'elle avait apportée dans la sienne. Elle alors, en la regardant de travers, semblait dire comme Juliette: L'ingrat avoir tout bu, de pas me laisser une goutte à mie. Nous restions ainsi l'un à côté de l'autre, assis et pétrifiés. L'un consterné et l'autre frappé à mort. Aucun n'osant souffler le mot et ne le pouvant. Tout d'un coup, une voix sonore, rude et pleine, cria d'en bas: Come, Mistress Belle! À cet appel, Kitty se leva comme par un ressort. C'était la voix de son mari. Le tonnerre eût été moins fort d'éclat et ne lui eût pas causé, même en tombant, une plus violente et plus électrique commotion. Tout le sang se porta aux joues. Elle baissa les yeux et resta un instant debout pour se remettre. Come, Mistress Belle! Répéta la terrible voix. Ce second coup la mit en marche, comme l'autre l'avait mise sur ses pieds. Elle descendit avec lenteur, droite, docile, avec l'air insensible, sourd et aveugle d'une ombre qui revient. Je la soutins jusqu'en bas. Elle rentra dans sa boutique, se plaça les yeux baissés à son comptoir, tira une petite Bible de sa poche, l'ouvrit, commença une page et resta sans connaissance, évanouie dans son fauteuil. Son mari se mit à gronder, les femmes à l'entourer, les enfants à crier, les chiens à aboyer. « Et vous ? » s'écria Stello en se levant avec chagrin. « Moi, oh, je donnais à Monsieur Bell 3 guinées, qu'il reçut avec plaisir et sang-froid, en les comptant bien. « C'est, lui dis-je, le loyer de la chambre de Monsieur Chatterton, qui est mort. « Oh !» dit-il avec l'air satisfait. « Le corps est à moi, dis-je, le ferai prendre. « Oh !» me dit-il avec un air de consentement. Il était bien à moi, car cet étonnant Chatterton avait eu le sang-froid de laisser sur sa table un billet qui portait à peu près ceci: « Je vends mon corps au docteur, le nom en blanc, à la condition de payer à Monsieur Bell 6 mois de loyer de ma chambre montant à la somme de 3 guinées. Je désire qu'il ne reproche pas à ses enfants les gâteaux qu'il m'apportait chaque jour et qui, depuis 1 mois, ont seuls soutenu ma vie. » Ici, le docteur se laissa couler dans la bergère sur laquelle il était placé et s'y enfonça jusqu'à ce qu'il se trouvât assis sur le dos et même sur les épaules. Là, dit-il avec un air de satisfaction et de soulagement, comme ayant fini son histoire. Mais Kitty Belle, Kitty, que devint-elle? Dit Stello en cherchant à lire dans les yeux froids du docteur noir. Ma foi, dit celui-ci, si ce n'est la douleur, le calomel des médecins anglais dut lui faire bien du mal. Car n'ayant pas été appelé, je vins quelques jours après visiter les gâteaux de sa boutique. Il y avait là ses 2 beaux enfants qui jouaient et chantaient dans l'habit noir. Je m'en allais en frappant la porte de manière à la briser. Et le corps du poète? Oh, rien n'y toucha, que le linceul et la bière, rassurez-vous. Et ses poèmes? Bien, il fallut 18 mois de patience pour réunir, coller et traduire les morceaux des manuscrits qu'il avait déchirés dans sa fureur. Quant à ceux que le charbon de terre avait brûlés, c'était la fin de la bataille d'Hastings, dont on n'a que 2 chants. Vous m'avez écrasé la poitrine avec cette histoire, dit Stello en retombant assis. Tous deux restèrent en face l'un de l'autre pendant 3 heures 44 minutes, tristes et silencieux comme Job et ses amis. Après quoi, Stello s'écria, comme en continuant: Mais que lui offrait donc M. Beckford dans son petit billet? Ah, à propos, dit le docteur Noir, comme en s'éveillant en sursaut. Oui, c'était une place de premier valet de chambre, chez lui. Chapitre 19. Tristesse et pitié. Pendant les longs récits et les plus longs silences du docteur Noir, la nuit était venue. Une haute lampe éclairait une partie de la chambre de Stello, car cette chambre était si grande que la lueur ne pouvait atteindre les angles ni le haut plafond. Des rideaux épais et longs, un antique ameublement, des armes jetées sur des livres, une énorme table couverte d'un tapis qui en cachait les pieds, et sur cette table deux tasses de thé. Tout cela était sombre et brillait par intervalles de la flamme rouge d'un large feu, ou bien se laissait deviner à demi et par reflet sous la lueur jaunâtre de la lampe. Les rayons de cette lampe tombaient d'abord en plomb sur la figure impassible du docteur Noir et sur le large front de Stello qui reluisait comme un crâne d'ivoire poli. Le docteur attachait sur ce front un œil fixe dont la paupière ne s'abaissait jamais. Il semblait y suivre en silence le passage de ses idées et la lutte qu'elles avaient à livrer aux idées de l'homme dont il avait entrepris la guérison, comme un général contemplerait d'une hauteur l'attaque de son corps d'armée montant dans la brèche et le combat intérieur qui lui resterait à gagner contre la garnison au milieu de la forteresse à demi conquise. Stello se leva brusquement et se mit à marcher à grands pas d'un bout à l'autre de la chambre. Il avait passé sa main droite sous ses habits comme pour contenir ou pour déchirer son cœur. On entendait que le bruit de ses talons qui frappaient sourdement sur le tapis et le sifflement monotone d'une grande bouilloire d'argent placé sur la table, source inépuisable d'eau chaude et de délices pour les deux causeurs nocturnes. Stello laissait échapper, en marchant vite, des exclamations douloureuses, des hésitations pénibles, des jurements étouffés, des imprécations violentes, autant que ces signes se pouvaient manifester dans un homme à qui l'usage du grand monde avait donné la retenue comme seconde nature. Il s'arrêta tout d'un coup et toucha de ses deux mains les mains du docteur. « Vous l'avez donc vu aussi ? » s'écria-t-il. « Vous avez vu et tenu dans vos bras le malheureux jeune homme qui s'était dit « Désespère et meurt, comme souvent vous me l'avez entendu crier la nuit. Mais j'aurais honte d'avoir pu gémir, j'aurais honte d'avoir souffert, s'il n'était vrai que les tortures que l'on se donne par les passions égale celle que l'on reçoit par le malheur. Mais cela s'est dû se passer ainsi. Oui, je vois chaque jour des hommes semblables à ce Beckford, qui est miraculeusement incarné d'âge en âge sous la peau blafarde des plaideurs d'affaires publiques. Mon cher et mon vieux complimentaire, lent paraphraseur de banalités silencieuses, fabricant léger de cette chaîne lourde et croissante, pompeusement appelée code, dont vous forgez les 40 000 anneaux qui s'entrelacent au hasard, sans suite le plus souvent inégaux comme les grains du chapelet, et ne remontant jamais à l'immuable anneau d'or d'un religieux principe. Aux membres rachitiques des corps politiques, impolitiques plutôt, fibre détendue des assemblées dont la pensée flasque, vacillante, multiple, égarée, corrompue, effarée, sautillante, colérique, engourdie, évaporée, émerillonnée, et toujours et sempitèrement commune et vulgaire, dont la pensée, dis-je, ne vaut pas pour l'unité et l'accord des raisonnements, la simple et sérieuse pensée d'un fellah jugeant sa famille au désert selon son cœur. N'est-ce pas assez pour vous d'être glorieusement employé à charger de tout votre poids le bas, le double bas du maître que le pauvre âne appelle son ennemi en bon français ? Faut-il encore que vous ayez hérité du destin monarchique, moins sa grâce héréditaire et plus votre grossièreté élective. Oui, noir et trop véridique, docteur, oui, ils sont ainsi. Ce qu'il faut au poète, dit l'un, c'est 300 francs et un grenier. La misère est leur muse, dit un autre. Bravo, courage! Oh, ce rossignol a une belle voix. Crevez-lui les yeux, il chantera bien encore. L'expérience en a été faite. Ils ont raison, vive Dieu! Triple divinité du ciel, mais que t'ont-ils donc fait, ces poètes que tu créas les premiers des hommes, pour que les derniers des hommes les renient et les repoussent ainsi? Stello parlait à peu près de la sorte en marchant. Le docteur tournait la paume de sa canne sous son menton et souriait. « Mais où se sont envolés vos diables bleus » dit-il. Le malade s'arrêta. Il ferma les yeux et sourit aussi, mais ne répondit pas, comme s'il n'eût pas voulu donner au docteur le plaisir d'avouer sa maladie vaincue. Paris était plongé dans le silence du sommeil, et l'on entendait au dehors que la voix rouillée d'une horloge sonnant brusquement les 3/4 d'une heure très avancée au-delà de minuit. Stello s'arrêta tout à coup au milieu de l'appartement, écoutant le marteau dont le bruit parut lui plaire. Il passa ses doigts dans ses cheveux comme pour s'imposer les mains lui-même et calmer sa tête. On aurait pu dire en examinant bien qu'il ressaisissait intérieurement les rênes de son âme et que sa volonté redevenait assez forte pour contenir la violence de ses sentiments désespérés. Ses yeux se rouvrirent, s'arrêtèrent fixement sur les yeux du docteur, et il se mit à parler avec tristesse, mais avec fermeté. Les heures de la nuit, quand elles sonnent, sont pour moi comme les voix douces de quelques tendres amis qui m'appellent et me disent l'une après l'autre : Mais qu'as-tu ? Jamais je ne les entends avec indifférence quand je me trouve seul à cette place où vous êtes, dans ce dur fauteuil où vous voilà. Ce sont les heures des esprits légers, qui soutiennent nos idées sur leurs ailes transparentes et les font étinceler de clarté plus vive. Je sens que je porte la vie librement durant l'espace de temps qu'elle mesure. Elles me disent que tout ce que j'aime est endormi, qu'à présent il ne peut arriver malheur à qui m'inquiète. Il me semble alors que je suis seul chargé de veiller et qu'il m'est permis de prendre sur ma vie ce que je voudrais du sommeil. Certes, cette part m'appartient, je la dévore avec joie, et je n'en dois pas compte à des yeux fermés. Ces heures m'ont fait du bien. Il est rare que ces chères compagnes ne m'apportent pas, comme un bienfait, quelques sentiments ou quelques pensées du ciel. Peut-être que le temps, invisible comme l'air et qui se pèse et se mesure comme lui aussi apporte aux hommes des influences inévitables. Il y a des heures néfastes. Telle est pour moi celle de l'aube humide, tant célébrée, qui m'amène que l'affliction et l'ennui, parce qu'elle éveille tous les cris de la foule pour toute la démesurée longueur du jour, dont le terme me semble inespéré. Dans ce moment, si vous voyez revenir la vie dans mes regards, elle y revient par des larmes. Mais c'est la vie, enfin, et c'est le calme adoré des heures noires qui me la rend. Ah, je sens dans mon âme une ineffable pitié pour ces glorieux pauvres dont vous avez vu l'agonie, et rien ne m'arrête dans ma tendresse pour ces morts bien-aimés. J'en vois, hélas, d'aussi malheureux qui prennent de diverses sortes leur destinée amère. Il y en a chez qui le chagrin devient bouffonnerie et grosse gaieté. Ce sont les plus tristes à mes yeux, Mais il y en a d'autres à qui le désespoir tourne sur le cœur, il les rend méchants. Et sont-ils bien coupables de l'être? En vérité, je vous le dis, l'homme a rarement tort, et l'ordre social toujours. Quiconque est traité comme Gilbert et Chatterton, qu'il frappe partout. Je sens pour lui, oh, s'attaquerait-il à moi-même, l'attendrissement d'une mère pour son fils, atteint injustement dans son berceau d'une maladie douloureuse et incurable. « Frappe-moi, mon fils, dit-elle, mords-moi, pauvre innocent. Tu n'as rien fait de mal pour mériter de tant souffrir. Mords mon sein, cela te soulagera. Mords, enfant, cela fait du bien. » Le docteur sourit dans un calme profond. Mais ses yeux devenaient plus sombres et plus sévères de moment en moment. Et avec une inflexibilité de marbre, il répondit « Que m'importe, s'il vous plaît, de voir à découvert que votre cœur a d'inépuisables sources de miséricorde et d'indulgence, et que votre esprit, venant à son aide, jette incessamment sur toutes sortes de criminels autant d'intérêt que Godwin en répandit sur l'assassin Falkland. Que m'importe cet instinct de tendresse angélique auquel vous livrez tout d'abord à tout sujet? Suis-je une femme en qui l'émotion puisse dérouter la pensée? Remettez-vous, monsieur, les larmes troublent la vue. » Stello revint s'asseoir brusquement, baissa les yeux, puis les releva pour regarder son homme de travers. « Suivez à présent, reprit le docteur, le cours de l'idée qui nous a conduits jusqu'où nous sommes arrivés. Suivez-la, s'il vous plaît, comme on suit un fleuve à travers ses sinuosités. Vous verrez que nous n'avons fait encore qu'un chemin très court. Nous avons trouvé sur les bords une monarchie et un gouvernement représentatif, chacun avec leur poète, historiquement maltraités et dédaigneusement livrés à misère et à mort. Et il ne m'a point échappé que vous espériez, en vous voyant transporté à la seconde forme du pouvoir, y trouver les grands du moment plus intelligents et comprenant mieux les grands de l'avenir. Votre espoir a été déçu, mais pas assez complètement pour vous empêcher, en ce moment même, de concevoir une vague espérance qu'une forme de pouvoir plus populaire encore serait tout naturellement, par ces exemples, le correctif des deux autres. Oh, je vois rouler dans vos yeux toute l'histoire des républiques avec ses magnanimités de collège. Épargnez-moi les citations, je vous en supplie, car à mes yeux, l'Antiquité tout entière est hors la loi philosophique à cause de l'esclavage qu'elle aimait tant. Et puisque je me suis fait conteur aujourd'hui, contre ma coutume, laissez-moi dire paisiblement une troisième et dernière aventure que j'ai toujours eue sur le cœur depuis le jour où j'en fus témoin. Vous ne soupirez pas si profondément, comme si votre poitrine voulait repousser l'air même qui frappe ma voix. Vous savez bien que cette voix est inévitable pour vous. N'êtes-vous pas fait à ces paroles? Si Dieu nous a mis la tête plus haute que le cœur, c'est pour qu'elle le domine. Stello courba son front avec la résignation d'un condamné qui entend la lecture de son arrêt. « Et tout cela, s'écria-t-il, pour avoir eu un jour de diable bleu la mauvaise pensée de me mêler de politique, comme si cette idée, jetée au vent avec les mille paroles d'angoisse qu'arrache la maladie, valait la peine d'être combattue avec un tel acharnement, comme si ce n'était pas un regard fugitif, un coup d'œil de détresse, comme celui que jette le matelot submergé sur tous les points du navire, ou celui... » « Poésie, poésie, ce n'est point cela, » interrompit le docteur, en frappant sa canne avec une force et une pesanteur de marteau. « Vous essayez de vous tromper vous-même. Cette idée, vous ne la laissiez pas sortir au hasard. Cette idée vous préoccupait depuis longtemps. Cette idée, vous l'aimez, vous la contemplez, vous la caressez avec un attachement secret. Elle est, à votre insu, établie profondément en vous, sans que vous en sentiez les racines plus qu'on ne sent celles d'une dent. L'orgueil et l'ambition de l'universalité d'esprit l'ont fait germer et grandir en vous, comme dans bien d'autres que je n'ai pas guéris. Seulement, vous n'osiez pas vous avouer sa présence, et vous vouliez l'éprouver sur moi en la montrant comme par hasard, négligemment et sans prétention. Ô funeste penchant, que nous avons tous à sortir de notre voie et des conditions de notre être. D'où vient cela, sinon de l'envie qu'a tout enfant de s'essayer au jeu des autres, de tout en bas de ses forces et se croyant tout possible? D'où vient cela, sinon de la peine qu'ont les âmes les plus libres à se détacher complètement de ce qu'aime le profane vulgaire? D'où vient cela, sinon d'un moment de faiblesse, où l'esprit est là de se contempler, de se replier sur lui-même, de vivre de sa propre essence, de s'en nourrir pleinement et glorieusement dans sa solitude? Il cède à l'attraction des choses extérieures, il se quitte lui-même, cesse de sentir, et s'abandonne au souffle grossier des événements communs. Il faut, vous dis-je, que j'achève de vous relever de cet abattement, mais par degrés, en vous contraignant à suivre, malgré ces fatigues, le chemin fangeux de la vie réelle et publique, dans lequel ce soir nous avons été forcés de poser le pied. Ce fut cette voix, avec une sombre résolution d'entendre, toute semblable aux forces que rassemble un homme qui va se poignarder, que Stello s'écria « Eh bien, parlez, monsieur !» Et le docteur Noir parla ainsi qu'il suit, dans le silence d'une nuit froide et sinistre.